France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Les écologistes n'ont jamais baissé les bras, persuadés que la centrale de Fessenheim fermerait bien un jour ou l'autre. Des écologistes qui saluent donc ce matin la publication d'un décret au journal officiel signé par le Premier ministre. Le texte confirme l'arrêt des deux réacteurs nucléaires construits il y a maintenant 42 ans. Le premier cessera définitivement de fonctionner samedi à 2h30 du matin. Le second sera stoppé le 30 juin prochain. Antoine Marette.
C'est donc le début de la fin pour Fessenheim, la fin d'un serpent de mer de la vie politique française. La doyenne des centrales nucléaires françaises avait été mise en service en 1977. Le président François Hollande avait promis sa fermeture pour 2016, puis l'avait repoussée en 2018. Et c'est finalement ce matin, au JO, que le décret abrogeant l'autorisation d'exploiter la centrale par EDF a été publié. Et ceci alors qu'Emmanuel Macron semble entamer un virage environnemental. Fessenheim, depuis plusieurs années, était devenu le symbole des dangers de l'atome pour les antinucléaires français. Les écologistes pointaient le vieillissement qui rendait le remplacement de certaines pièces complexes, la situation de la centrale en contrebas du Grand Canal d'Alsace et dans une région risque sismique avéré. À l'inverse, les partisans de Fessenheim dénonçaient l'absurdité de se priver d'une source d'énergie décarbonée. Et puis n'oublions pas qu'en France, les centrales nucléaires assurent 70% de la production d'énergie. La France compte 58 réacteurs, 12 autres doivent être arrêtés d'ici 2035. Chaque réacteur produit en moyenne chaque mois l'équivalent de la consommation de 400 000 foyers.
Dans l'affaire Grévaux, Piotr Pawlenski et Alexandra de Tadeo ont été mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée, entre autres, et placés sous contrôle judiciaire. À la sortie du tribunal, l'activiste russe a assumé d'avoir mis en ligne les vidéos de l'ancien porte-parole du gouvernement qui, vendredi, s'est retiré de la course pour les municipales parisiennes. Les syndicats ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la réforme des retraites. Le MEDEF, lui aussi, pointe les problèmes de gouvernance, de financement et de pénibilité. Son président, Geoffroy Roux de Bézieux, le dit sans détour ce matin à nos confrères du journal Les Échos. Le projet du gouvernement qui préoccupe les partenaires sociaux monopolise également l'attention des députés depuis lundi. Hier, les oppositions de droite comme de gauche ont d'ailleurs multiplié les attaques dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Maxime Debs.
Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad a été hier soir l'un des premiers à dégainer.
Aujourd'hui, on a la conférence de financement qui se réunit en même temps que ce débat ici dans l'hémicycle. Ça n'a aucun sens.
Aucun sens dans tout ça non plus pour son collègue Marc Le Fur qui moque les nombreuses concessions faites par l'exécutif à diverses corporations, a priori loin du régime universel initial.
C'est comme la grammaire française. Il y a la règle et puis il y a des exceptions. Hein, chou, hibou, etc.
Chose à laquelle le co-rapporteur Nicolas Turquois concède.
Oui, vous avez sûrement raison, ce système n'est pas parfaitement universel.
Le député MoDem, La République En Marche, a beau tenter alors rapidement d'étayer son propos, Daniel Obono, de la France Insoumise, saute sur l'occasion.
Il nous semble important de continuer sur cette bonne voie en inscrivant dans le marbre à quel point cette réforme n'était pas parfaitement équitable.
Chef des députés LREM, Gilles Legendre, perd alors patience.
Nous voyons parfaitement quelle est la stratégie qui vous guide. Nous venons ici au Parlement pour porter un projet argumenté, renseigné, et vous n'y apportez comme réponse unique l'obstruction et le désir que ce débat n'ait pas lieu. Nous y répondrons argument par argument.
23h53 hier soir, Richard Ferrand lève la séance, suite des débats aujourd'hui à 15h.
En plus de 2000 morts en Chine, l'épidémie continue de se propager dans le pays et même si les autorités précisent que depuis deux jours, le nombre de contaminations ralentit dans la province du Roubaix et notamment dans la ville de Wuhan, la situation est toujours très préoccupante. Dominique André nous appelle de Pékin.
Oui, alors on l'apprend ce matin, c'est une information qui est donnée par le coordinateur de l'ONU à Pékin. L'équipe conjointe de l'Organisation mondiale de la santé qui est composée d'experts internationaux et chinois qui doit se rendre dans plusieurs provinces du pays pour enquêter sur le coronavirus ne passera pas tout de suite par le Roubaix, qui est pourtant le berceau de l'épidémie. Cette information peut surprendre, mais ce n'est pas le bon moment, a expliqué Nicolas Rossellini à la télévision chinoise. Les équipes médicales, a-t-il dit, sont sur le front de la lutte et des soins aux malades, c'est leur priorité. La majorité des cas sont effectivement enregistrés dans le Roubaix, où Madame Yang nous a décrit une situation difficile. Son père est mort il y a quelques jours.
Nous avons installé un lit provisoire dans une salle d'attente près du service des urgences pour que mon père soit oxygéné et mis sous
sous perfusion. Il est resté 3 jours comme ça, à l'hôpital de Hankou. Les couloirs étaient remplis de gens malades. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de décès chaque jour à cause de cette maladie. Mais qu'est-ce que la presse a dit? J'ai vu moi-même 7 ou 8 décès par jour. Je ne crois ni le nombre de décès, ni le nombre des malades contaminés officiels.
Alors la province du Roubaix adopte des mesures encore beaucoup plus sévères puisque les autorités cherchent désormais toutes les personnes qui ont consulté un médecin pour des symptômes grippaux ou même acheté du sirop contre la toux, et ce depuis le 20 janvier.
Du soleil sur la moitié sud, une situation qui s'améliore sur le nord avec de belles éclaircies après les averses. Il va neiger en altitude sur tous les reliefs de l'est. Les températures iront cet après-midi de 7 à 18 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. Très bonne journée et à demain Olivier.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.